Ma chère maman, souvenir intime et familier par sa fille Olga, vicomtesse de Simard de Pitray. Je n'ai pas la prétention de faire ici la biographie non plus que la généalogie de ma bonne mère. Sophie, comtesse Rostopchine, devenue plus tard comtesse de Ségur, est trop connue par ses ouvrages et par le livre charmant de mon frère Gaston, ma mère, pour que je répète ce que l'on connaît déjà. Née et élevée en Russie, avec un luxe tout royal, elle habitait tantôt à Moscou, le magnifique hôtel qui fut incendié avec Moscou, puis reconstruit après le départ de Napoléon, tantôt la superbe terre de Voronovo, dont j'ai parlé dans « Mon bon Gaston ». Son éducation fut à la fois très sévère et très soignée. À 4 ans, la petite Sophie parlait correctement le russe, le français, l'anglais et l'italien, grâce à des gouvernantes appartenant à chacune de ses nationalités. À 7 ans, elle jouait du piano avec une telle facilité qu'elle savait par cœur la belle et difficile sonate de Steinbeld, l'orage. Malheureusement pour les amateurs de musique, la comtesse Rostopchine, ayant entendu l'enfant dire que le piano l'ennuyait, la laissa libre d'abandonner une étude qu'elle trouvait frivole. Et lorsque ma mère reprit son piano, ce fut beaucoup trop tard pour rattraper le temps perdu. Elle le regretta quand elle eut l'âge de le comprendre, car elle aimait extrêmement la musique. Mais l'enfant insouciante ne songea alors qu'à se réjouir lorsque ses menottes purent être libérées des exercices qu'elle redoutait. Vivant dans un château princier, ayant tout un monde de serviteurs aux ordres de leur seigneur, ma grand-mère éleva néanmoins en spartiate ses 3 filles, Nathalie, qui devint plus tard Madame Narychkine, Sophie, ma mère, et Lise, cette merveille de beauté et de bonté. Elle se servait elle-même. Chacune d'elles, quoique entourée de femmes de service, s'habillait, se coiffait, faisait son lit, son appartement, et taillait ses robes. Ma mère était fort bonne couturière, et faisait même ses corsets. Élevée en lacédémonienne, elle avait une couchette tellement dure et étroite que la plupart du temps elle se réveillait par terre. Elle garda toute sa vie l'habitude de dormir sur la dure, et l'on pourra voir dans une de ses lettres à moi adressée une recommandation à cet égard. À son arrivée en France, elle faisait son lit en ôtant matelas et paillasse. Les planches lui semblaient préférables pour dormir. Elle était aussi spartiate pour se couvrir que pour se reposer. Dans les grands froids, elle ajoutait à son unique couverture un journal déplié qui lui donnait, disait-elle, un notable surcroît de chaleur. Voronovo était charmant en été, mais pendant les froids, il devenait effrayant. Les loups venaient hurler jusque sous les fenêtres du château. Cette terre était l'objet de prédilection du comte Rostopchine, qui s'y occupait beaucoup de culture. Il faisait venir à grands frais de l'étranger des animaux reproducteurs de races perfectionnées. Le chat de Perse tint à honneur de lui envoyer, après l'incendie de Moscou, 8 chevaux de toute beauté qui donnèrent à son hara une race admirable. Il y avait là un vieil écuyer qui guérissait les animaux malades par quelques paroles mystérieuses, murmurées à l'oreille. Au moment où il allait mourir, il confia son secret à la belle-sœur de ma mère, la comtesse Eudoxie, en lui recommandant de ne dire à personne les mots proférés pour ses guérisons bizarres et instantanées. Quoique riant de cette recette, ma tante l'employa avec succès pendant quelques années. Mais, ayant un jour cité dans une causerie cette phrase cabalistique, elle perdit tout son pouvoir et l'on dut, à partir de ce moment, recourir aux moyens ordinaires pour soigner les chevaux dans leur maladie. Mon grand-père faisait venir de fort loin des gens spéciaux afin d'installer des machines perfectionnées à Voronovo. L'un d'eux fut le héros d'une aventure trop extraordinaire pour ne pas la raconter ici. Je tiens ce récit de ma mère qui, toute jeune fille alors, avait interrogé l'enfant dont il va être question tout à l'heure, qui en a reçu des réponses nettes et fermes. L'aventure avait fait grand bruit dans le château. L'anglais, qui en était le héros, ne s'étant pas gêné pour se plaindre tout haut de ce qu'il regardait comme un tour méchant qui lui était joué. Ce mécanicien, arrivé avec sa famille, laquelle se composait de sa femme, d'un petit garçon et d'une petite fille, avait été installé dans un pavillon qu'il habitait avec les siens. Les braves gens ne parlaient qu'anglais, et dans le château, mon grand-père, ma grand-mère, leurs 3 fillettes et une vieille gouvernante seule savaient cette langue. Peu de temps après leur arrivée à Voronovo, la jeune femme tomba malade et mourut. L'anglais, fort affligé de cette perte, fit coucher alors son petit garçon près de lui. Dans la pièce qui précédait sa chambre dormait sur un banc le petit garçon russe, désigné pour servir la famille étrangère. Un matin, le veuf arriva chez le comte Rostopchine. Il était très ému, très animé. À peine entré, il se plaignit avec véhémence d'avoir été la nuit précédente victime d'un procédé indigne. Il raconta ce qui suit à mon grand-père, profondément étonné. Couché depuis peu, à côté de son fils endormi, l'Anglais songeait tristement à sa femme, lorsque tout à coup la porte s'ouvrit, et il vit entrer celle qu'il pleurait. Elle alla droit à son enfant et le toucha. Le garçonnet ouvrit les yeux et s'écria « Ah, maman !»« Mon enfant, » dit tendrement l'apparition, « ton père t'aime moins que ta sœur. Si tu restes ici-bas, tu souffriras. Veux-tu venir avec moi ?»« Oui, » répondit-il sans hésiter. « Je veux bien. » »« Prépare-toi donc à me rejoindre, » reprit l'ombre. « Je te prendrai bientôt. » Elle disparut. L'Anglais, d'abord pétrifié, regarda son fils en se demandant s'il n'était pas le jouet d'un rêve fantastique. Celui-ci avait les yeux grands ouverts. « Tu ne dors pas ?» demanda le père en se penchant vers lui. « Non, papa. Que t'arrive-t-il ? J'ai vu maman. Que t'a-t-elle dit ? Que vous m'aimiez moins que ma sœur, que je souffrirais si je restais ici-bas. Elle m'a demandé si je n'aimerais pas mieux aller avec elle. J'ai dit que oui. Elle m'emmènera bientôt. » L'Anglais, ne croyant pas ses oreilles, pensa qu'une personne mal intentionnée avait voulu évidemment lui jouer un tour en venant ainsi, après avoir pris une apparence qui offrait la ressemblance parfaite de la morte. Convaincu de cette idée, il sauta à bas de son lit et courut à la porte. Elle était fermée. Il l'ouvrit à la hâte et se trouva dans l'antichambre, qui seule donnait accès chez lui. Le petit russe dormait sur son banc à poing fermé. L'Anglais regarda la porte d'entrée. Les verrous en étaient toujours fermés, et la serrure l'était également. Il interpella le jeune paysan, mais celui-ci, à peine réveillé et ne comprenant pas l'Anglais, ne put rien expliquer, et retomba endormi sur sa couche rustique. Et le mécanicien était accouru dès qu'il avait fait jour chez le comte Rostopchine. Il racontait cette mystérieuse apparition, toujours persuadé qu'un tour détestable et méchant pouvait seul expliquer ce qui venait de lui arriver. Mon grand-père le calma avec sa bonté ordinaire et lui fit observer que ni ma grand-mère ni ses filles n'étaient capables d'une chose aussi indigne, pas plus que la vieille institutrice. Or, ces dames seules et mon grand-père savaient l'anglais. Les autres personnes de la maison n'en connaissaient pas le premier mot. De plus, l'enfant comme le père avait reconnu la défunte. La porte d'entrée avait été fermée comme à l'ordinaire par l'Anglais, qui en avait ôté la clé avant de se mettre au lit. Tous se réunissaient donc pour garder à cette apparition une étrangeté absolue. Le petit garçon la raconta à tous comme à son père et ajouta qu'il voulait aller rejoindre sa mère qui l'attendait. Peu de jours après, il tomba malade et mourut très promptement. Je relate le fait purement et simplement, sans essayer de rien expliquer. Je répète que je tiens ce récit de ma mère, qui m'en a parlé à plusieurs reprises, sans jamais me cacher que, suivant son opinion, cette apparition n'était pas naturelle. Un détail bizarre de l'incendie de Moscou. Lorsqu'on revint pour relever les grandes ruines du château de Voronovo, on s'aperçut que toutes les souris étaient devenues blanches. Je livre ce fait curieux à la science, sans me permettre là-dessus aucune réflexion. Lorsque ma mère fut en âge d'aller dans le monde avec sa sœur aînée, Nathalie, elle en éprouva plus d'ennui que de joie. Son extrême timidité changeait pour elle les réunions en autant de supplices, et cette timidité la gênait d'autant plus qu'elle se traduisait par des rougeurs intenses, colorant non seulement son visage, mais encore ses épaules et même ses bras. Comme pour accentuer son ennui, elle fut alors l'objet d'une mésaventure dont elle ne se rappelait jamais sans consternation. Ma mère aimait fort les sucreries, les quartiers d'orange glacés entre autres. Elle avait donc pris un soir avec plaisir un de ces bonbons et venait de le mettre dans sa bouche lorsque les préludes d'une valse se firent entendre. Un danseur élégant s'approcha de ma mère. « Comtesse, voulez-vous me faire l'honneur de m'accorder cette valse ? » demanda-t-il respectueusement. La jeune fille voulut répondre. « Impossible ! » Elle sentit avec terreur le sucre se coller à ses dents et lui interdire toute parole. D'ardentes rougeurs révélèrent sa détresse. « On, murmura-t-elle. désespéré de son mutisme forcé et de son extrême embarras. Le jeune homme, étonné, la regarda. Effort nouveau de la pauvre gourmande pour parler, redoublement de détresse et de malaise. « On, gémit-elle en tournant à la betterave. Le valseur la contemplait avec des yeux arrondis par la stupéfaction. « Elle est folle !» se dit-il. Et renonçant à obtenir une réponse intelligible, il s'éloigna, la laissant se débattre avec son quartier d'orange, plus tenace que jamais. Ma pauvre mère garda un tel souvenir de cet épisode désagréable que plus jamais elle ne consentit à prendre une friandise qui lui avait joué un tour aussi odieux. Ses réunions étaient cependant fort agréables, simples et sans façon. La jeunesse sautillait dans un salon spécial, tandis que les parents, installés dans des pièces adjacentes, causaient ou jouaient suivant leur bon plaisir. À côté des jeunes comtesses Rostopchine, se trouvait sans cesse une parente à elle, cousine éloignée, mais portant le même nom. Sa pauvreté l'avait fait recueillir par ma grand-mère. Mademoiselle Nathalie Rostopchine, morte religieuse plusieurs années avant ma mère, avait été d'une beauté remarquable. Mais la petite Vérole l'avait complètement défigurée, et cela n'avait pas contribué à rendre son caractère agréable. C'est elle qui a été portraiturée par mon frère dans l'album qui contient la célèbre Dame de Pique avec son hideux roquet. Venue en France avec ses cousines, elle y resta comme ma mère. À leur arrivée à Paris, les jeunes filles n'eurent rien de plus pressé que de vouloir goûter les célèbres glaces dont les perfections leur avaient été vantées. Vu la sévérité de ma grand-mère, elles en firent venir en cachette et savouraient ses rafraîchissements lorsque des pas se firent entendre et ma grand-mère parut dans le salon où étaient installés les coupables. Heureusement pour ces dernières, l'extrême myopie de l'arrivante l'empêcha de voir le brouhaha épouvanté qui accueillit son entrée imprévue. Ma mère et ses sœurs auraient pu fourrer leurs glaces sous leurs chaises. Mais mademoiselle Rostopchine, qui se trouvait devant son métier à broder, elle était d'une habileté hors ligne pour ce genre de travail, n'avait pu en faire autant. Dans son trouble, elle tint sa soucoupe sous son canevas, piquant son ouvrage d'une seule main et retirant son aiguille pour la replonger à la même place avec une activité fiévreuse et stérile. Enfin, ma grand-mère s'éloigna sans rien découvrir. Les pauvres gourmandes, encore tremblantes, purent reprendre et terminer hâtivement leur lunch, un instant menacé. L'esprit puissant et original du héros de Moscou ne dédaignait pas la plaisanterie. Observateur malin, le général comte Rostopchine avait vite constaté, à son arrivée en France, le penchant des Parisiens à s'émouvoir d'un rien et l'incrédulité de ces badauds de la rue qui se rassemblent sans savoir pourquoi. Il en parlait gaiement dans une causerie intime et finit par dire que rien n'était plus facile que d'amasser la foule. Son interlocuteur se récria. « Eh bien, reprit mon grand-père, voulez-vous parier qu'en 5 minutes, je ferai grouper plus de 500 personnes autour de moi aux Champs-Élysées ?»«
Allons donc !»«
Parfaitement !»« Vous aurez donc en main quelque objet étrange ?»« Je ne tiendrai rien du tout. »« Vous ferez un speech aux passants ?»« Je ne leur parlerai pas. »« Alors ce sera impossible. » Cela sera cependant, n'osez-vous parier? Ainsi, parbleu, je l'ose. Quand accomplirez-vous ce tour de force? Demain, dans l'après-midi. C'est convenu. À l'heure dite, mon grand-père arrive dans la grande allée des Champs-Élysées. Là, tandis que la foule bourdonnante des promeneurs va et vient autour de lui, son ami le voit s'arrêter soudain. Lever les yeux vers le ciel, faire un geste de surprise et quelques exclamations étouffées, comme si quelque chose d'étrange captivait son attention. On entend, les curieux s'arrêtent, le regardent, regardent le ciel, et cherchent à découvrir ce qu'il y a d'extraordinaire. D'autres limites. Un rassemblement se forme rapidement. Tout le monde, le nez en l'air, les yeux écarquillés, s'efforce de voir ce que semble contempler avec extase l'imperturbable mystificateur. Le rassemblement se transforme en foule, au grand dépit de la personne qui avait accepté le pari. Les questions s'entrecroisent, on se bouscule, on croit être sur le point d'apercevoir des météores attendus par la science, le brouhaha devient formidable, et le temps fixé pour le pari n'étant pas écoulé que plus de 500 gobe-mouches réalisaient les espérances de mon grand-père. Celui-ci s'esquiva prestement, laissant les pauvres gens se morfondre bêtement. Il rejoignit son parieur consterné, mais ne pouvant malgré cela s'empêcher de rire, en observant cette scène de comédie si finement jouée par l'auteur principal. Allant un soir dans le monde, le comte Rostopchine fut interrogé par une dame au sujet de ses mémoires qu'elle croyait avoir été déjà rédigées et qu'elle pensait avec raison devoir être fort intéressant. « Madame, répondit en souriant le héros de Moscou, je n'avais jamais songé jusqu'ici à les écrire. Le désir de vous être agréable m'impose le devoir de le faire. » « Ah, quelle bonne promesse !» s'écria son admiratrice. « Mais ce sera pour vous un bien grand travail, et nullement vous les aurez demain. »«
Demain, dites-vous ? »
répéta la dame stupéfaite, et n'en croyant pas ses oreilles. « Oui, demain. » La surprise était générale. On crut un badinage. C'en était un, en effet, mais qui produisit le petit chef-d'œuvre littéraire intitulé « Mes mémoires en 10 minutes ». Je les intercale ici, car ils n'ont été publiés jusqu'ici que dans 2 livres, dont un inconnu en France. Mes mémoires, ou moi au naturel, écrit en 10 minutes. Table des matières, chapitre 1, ma naissance, chapitre 2, mon éducation, chapitre 3, mes souffrances, chapitre 4, privation, chapitre 5, époque mémorable, chapitre 6, portrait au moral, chapitre 7, résolution importante, chapitre 8, ce que je fus et ce que j'aurais pu être. Chapitre 9. Principes respectables. Chapitre 10. Mes goûts. Chapitre 11. Mes aversions. Chapitre 12. Analyse de ma vie. Chapitre 13. Récompense du ciel. Chapitre 14. Mon épitaphe. Chapitre 15. Épître dédicatoire. Chapitre 1. Ma naissance. En 1765, je sortis des ténèbres pour apparaître au grand jour. On me mesura, on me pesa, on me baptisa. Je naquis sans savoir pourquoi, et mes parents remercièrent le ciel, sans savoir de quoi. Chapitre 2. Mon éducation. On m'apprit toutes sortes de choses et toute espèce de langues. À force d'être impudent et charlatan, je passais quelquefois pour un savant. Ma tête est devenue une bibliothèque dépareillée, dont j'ai gardé la clé. Chapitre 3. Mes souffrances. Je fus tourmenté par les maîtres, par les tailleurs qui me faisaient des habits étroits, par les femmes, par l'ambition, par l'amour propre, par les regrets inutiles, par les souverains et par les souvenirs. Chapitre 4. Privation. J'ai été privé de 3 grandes jouissances de l'espèce humaine, du vol, de la gourmandise et de l'orgueil. Chapitre 5. Époque mémorable. À 30 ans, j'ai renoncé à la danse, à 40, à plaire au beau sexe, à 60, à penser, et je suis devenu un vrai sage ou égoïste, ce qui est synonyme. Chapitre 6. Portrait au moral. Je fus entêté comme une mule, capricieux comme une coquette, lié comme un enfant, paresseux comme une marmotte, actif comme Bonaparte, et le tout à volonté. Chapitre 7. Résolution importante. N'ayant plus jamais me rendre maître de ma physionomie, je lâchai la bride à ma langue, et je contractais la mauvaise habitude de penser tout haut. Cela me procura quelques jouissances et beaucoup d'ennemis. Chapitre 8. Ce que je fus et ce que j'aurais pu être. J'étais très sensible à l'amitié, à la confiance, et si j'étais né pendant l'âge d'or, j'aurais peut-être été un bonhomme tout à fait. Chapitre 9. Principes respectables. Je n'ai jamais été impliqué dans aucun mariage ni aucun commérage. Je n'ai jamais recommandé ni cuisinier ni médecin. Par conséquent, je n'ai attenté à la vie de personne. Chapitre 10. Mes goûts. J'aimais une petite société, une promenade dans les bois. J'avais une vénération involontaire pour le soleil et son coucher m'attristait souvent. En couleur, c'était le bleu. En manger, le bœuf au naturel. En boisson, l'eau fraîche. En spectacle, la comédie et la farce. En homme et en femme, la physionomie ouverte, expressive. Les bossus des deux sexes avaient pour moi un charme que je n'ai jamais pu définir. Chapitre 11. Mes aversions. J'avais de l'éloignement pour les sots et pour les faquins, pour les femmes intrigantes qui jouent la vertu, un dégoût pour l'affectation de la piété, pour les hommes teints et les femmes fardées, de l'aversion pour les rats, les liqueurs, la métaphysique et la rhubarbe, de l'effroi pour la justice, les bêtes enragées. Chapitre 12. Analyse de ma vie. J'attends la mort sans crainte, comme sans impatience. Ma vie a été un mauvais mélodrame, un grand spectacle, dans lequel j'ai joué les héros, les tyrans, les amoureux, les pères nobles, mais jamais les valets. Chapitre 13. Récompense du ciel. Mon grand bonheur est d'être indépendant des trois individus qui régissent le monde. Comme je suis assez riche, le dos tourné aux affaires et assez indifférent à la musique, je n'ai par conséquent rien à démêler avec Croce, Metternich et Rossini. Chapitre 14. Mon épitaphe. Ici, on a posé pour se reposer avec une âme blasée, un cœur épuisé, un corps usé. Un vieux diable trépassé, mesdames et messieurs, passez. Chapitre 15. Épître dédicatoire au public. Chien public, organe discordant des passions. Toi qui élèves au ciel et qui plonges dans la boue, qui prône et calomnie sans savoir pourquoi, image du tocsin, écho de toi-même, tyran absurde échappé des petites maisons, extrait des venins les plus subtils et des parfums les plus suaves, représentant du diable auprès de l'espèce humaine, furie masquée en charité chrétienne, public, que j'ai craint dans ma jeunesse, respecté dans l'âge mûr et méprisé dans ma vieillesse, c'est à toi que je dédie ces mémoires, gentil public. Enfin, je suis hors de ton atteinte, car je suis mort, et par conséquent sourd, aveugle et muet. Puisses-tu jouir de ces avantages pour ton repos et pour celui du genre humain. Un des plaisirs du comte Rostopchine était de s'en aller au jardin des plantes et d'y observer les différents animaux. Les singes l'amusaient tout particulièrement. Il y assista un jour à deux scènes du plus haut comique dont ma bonne mère m'a raconté les amusants détails. En premier lieu, ce fut un jeune singe qui s'acharnait à suivre une vieille guenon sur la queue de laquelle il marchait pas à pas, avec un soin satanique. L'infortuné la laissait traîner probablement pour cause d'épuisement sénile. La victime criait, essayant de regimber, mais impitoyablement suivie par le singe taquin et opiniâtre dans sa malice. La seconde scène eut lieu entre un fils et sa mère. Le visiteur leur ayant offert du gâteau, le petit voulut le prendre, mais il dut s'enfuir les mains vides, vertement souffloté par la guenon égoïste et gourmande. Le jeune singe, furieux et déçu, résolut de se venger. Il guetta donc le moment où sa mère, le dos tourné, savourait le gâteau pour lui jeter prestement une poignée de sable à la tête. Désagréablement interrompu dans son occupation, la guenon sursauta et regarda le coupable. Celui-ci affecta une attitude nonchalante et mordillait innocemment un brin de paille. La gourmande se remit à manger. Nouvelle attaque de la part du fils rancuneux. La mère, se méfiant alors, le surveilla du coin de l'œil, et à la troisième poignée de sable, elle s'élança, saisit le petit polisson et le fouetta de main de maître.